Écho d'économie, Jocelyne Moussaou.
Bonsoir et bienvenue dans cette émission. L'équipe de Écho d'économie est là pour vous donner la température économique du pays. Daniel Tampinzoni nous livre les informations.
Il faut redynamiser la filière café, cacao, secteur Beni-Lubero. Un atelier s'est tenu à Beni autour de ce thème. Nous allons avec Étienne Moïndo dans deux minutes. Une forte pénurie de poissons se fait observer depuis environ un mois dans les localités situées au bord du lac Albert au sud de Bouni en province orientale. Et sur le marché, le prix des poissons a presque doublé. C'est le reportage que nous propose Isaac Remoyopé dans la deuxième partie de Écho d'économie.
La brasserie Simba de Kolwezi a repris ses activités avant-hier. Cette usine située à près de 300 km de Lubumbashi avait arrêté sa production après le pillage de 1991. Son administrateur, directeur général Claude France est notre invité à suivre dans 10 minutes. D'abord, les informations nationales. La crise financière internationale a fait 250 victimes, dont l'entreprise Forabola à Boma dans le Bas-Congo.
Ils ont été licenciés la semaine dernière et hier seulement, un groupe de députés provinciaux avec en tête le rapporteur de l'Assemblée a reçu les responsables de l'intersyndicale de cette entreprise forestière pour en parler. Les syndicalistes ont fait savoir que les raisons de force majeure et la crise financière telle qu'avancée par l'employeur ne tiennent pas pour eux. Le code du travail congolais ne reconnaît pas ces raisons comme justification de licenciement. Ils ont reçu de l'Assemblée provinciale la promesse de mettre sur pied une commission parlementaire pour plancher sur ce dossier.
L'ouverture de la route Kisangani-Ituri ne profite pas aux commerçants de Bafouasende.
Ces camionneurs se plaignent ces derniers temps de multiples tracasseries dont ils sont victimes de la part des militaires et certains services de l'État. Selon ces commerçants, les véhicules en provenance de Kisangani et d'Ituri refusent de s'arrêter dans la cité de Bafouasende, tout simplement par crainte que ces tracassiers ravissent des marchandises et même des marchandises aux clients. En réaction, l'administrateur du territoire déclare que le comité de sécurité du territoire a initié des patrouilles diurnes et nocturnes constituées des éléments de la police nationale congolaise, de la police militaire et des 100 services de renseignement pour lutter contre toute tracasserie.
Et l'office congolais de contrôle profite de la porte ouverte à la foire touristique de Goma pour expliquer ses activités.
Cette foire est ouverte aux entreprises privées et publiques en province. Selon Mirindi, responsable de l'OCC, son institution est un organe de régulation des produits à l'importation et à l'exportation. Il contrôle aussi la qualité de la production locale et assure le contrôle technique, notamment sur les bateaux et les véhicules. Il affirme également que l'OCC peut apporter son assistance en cas de sinistre de produits à un commerçant reconnu par son organisation. Notons que cette exposition a été faite sur demande des responsables de la foire pour montrer le rôle important que joue cet office congolais de contrôle dans la société.
La nouvelle économique au bout du fil.
Au bout du fil, nous retrouvons Étienne Moïndo depuis la ville de Butembo, Nord Kivu. Étienne, il vient de se tenir ces deux derniers jours à Beni un atelier sur la redynamisation de la filière café-cacao. D'abord, peut-on savoir où cultive-t-on ces deux plantes dans les secteurs de Beni-Lubero?
Oui, écoutez, Jocelyne, bien le café arabica est planté spécialement dans le territoire de Lubero, notamment à Kirumba, Kaina, Bukununu, sur la côte ouest du lac Édouard, tandis que le café Robissa est, lui, planté dans le territoire de Beni rural, notamment à Mangina, Oicha, Mbaou et Ringeti. Le cacao est planté dans les localités riveraines du Mont Rwenzori, notamment à Mutwanga, Kainama, toujours dans le territoire de Beni rural. Bien, selon les participants à l'atelier de Beni, la filière café est à ce jour confrontée à la trachéomycose. Les exportateurs du café, de leur côté, se plaignent de la multiplicité des taxes administratives, ce qui entraîne, selon eux, la fraude et le manque de compétitivité du café congolais face à celui de l'Ouganda ou encore du Rwanda, grands bénéficiaires de cette fraude, Jocelyne.
Étienne, quel est l'impact de ces deux problèmes sur la production du café dans le secteur de Béni-Loubero?
Les participants à l'atelier de Béni ont rappelé qu'avant la guerre de 1998, le secteur de Béni-Loubero produisait annuellement 30 000 tonnes de café, soit 30 millions de dollars américains. À ce jour, la production de café dans les territoires varie entre 6 000 et 7 000 tonnes, ce qui représente moins de 7 millions de dollars. Pour les planteurs, c'est le café qui a construit les cités de Kirumba, Kaina et Café dans les territoires de Loubero, ou encore les cités de Mangina, Oicha et Mbao dans les territoires de Béni Rural. Et ils accusent l'État d'être à la base de cette situation, Jocelyne.
Et j'imagine que les participants ont proposé des pistes de solutions.
Et oui, les participants demandent notamment à l'État de mettre fin à la multiplicité des taxes. Et pour les représentants des exportateurs, M. Kambale Kisumba Kamungele, des établissements Tongo Kasereka, la solution passe par l'établissement d'un partenariat public et privé et par l'encadrement des planteurs. Et sur ce dernier point, il note que l'Office national du café mène déjà la lutte contre la trachéomycose. Et il pense que l'État doit encadrer effectivement le circuit de la production, de la transformation et même de la commercialisation du café. Et cela pour lutter efficacement contre la fraude, Jocelyne Moussaou.
Merci beaucoup, Étienne Mouyindo, pour ces informations et bonne soirée chez vous.
Bonne soirée.
Info économique en Afrique et à travers le monde.
C'est avec vous Daniel Tambinzoni. En Afrique, les agriculteurs et les transformateurs de coton signent un accord.
Ils ont signé un accord de coopération à Dakar au Sénégal pour promouvoir cette industrie. L'accord a été conclu entre l'association cotonnière africaine qui représente les fabricants et l'association africaine de producteurs du coton. Les producteurs africains de coton ont fait campagne contre les subventions versées par les pays développés à leurs agriculteurs, ce qui, disent-ils, réduit les prix et même empêche d'être concurrentiel.
En Angola, les industriels demandent plus d'importations de biens d'équipement.
L'association industrielle angolaise a invité le gouvernement angolais à favoriser l'importation des biens d'équipement au lieu de biens de consommation. 80% des devises étrangères du pays vont à l'importation de biens de consommation et seulement 20% pour l'importation de biens d'équipement. L'AIA suggère d'octroyer donc d'accroître les investissements dans le secteur de l'agriculture et de l'agro-industrie, en particulier pour relancer la production de café.
Et Timothy Geithner voit les premiers signes d'un retour de la croissance.
Le secrétaire au Trésor américain a déclaré hier avoir vu les premiers signes de la croissance économique aux États-Unis et dans le monde, tout en estimant que la route était encore longue avant un retour à la normale. La puissance de la réponse que nous avons mise en œuvre ici et avec le G20 a véritablement permis d'éloigner avec succès l'économie mondiale du bord de l'abîme, a-t-il dit.
Merci beaucoup à Daniel pour ces informations économiques du monde. Écho d'économie se poursuit. Voici sa seconde partie.
Écho reportage.
L'éco-reportage de ce soir nous emmène en Ituri, en province orientale. Une forte pénurie de poissons frais s'observe depuis environ un mois dans les localités situées au bord du lac Albert, notamment à Chomia, environ 60 km au sud de Bounia. La population locale et les marchands n'arrivent plus à s'approvisionner en poissons frais en quantité suffisante. Sur le marché, le prix des poissons a presque doublé. Isaac Remoyope.
Ils sont les mouvements des poissons frais dans une embarcation revenue de la pêche au bord du lac Albert à Tchomia. À côté de la pirogue, un groupe de pêcheurs fatigués suite à ces labeurs contemple avec un visage de déception la faible quantité des poissons produites. À quelques mètres, c'est le même décor dans toutes les embarcations au bord du lac. Un pêcheur exprime son sentiment.
Il n'y a plus de poissons comme c'était dans le passé. Les pirogues reviennent avec 30 ou 35 kilos. Si vous produisez 50 kilos, c'est la plus grande quantité et c'est après 9 jours. Cela ne couvre pas les dépenses. Beaucoup de de pêcheurs se sont découragés et certains ont abandonné la pêche et se sont lancés dans les activités agricoles.
Sur la plage, le long du lac, des acheteurs, dont les femmes des ménages et des commerçants, venus notamment de Kisangani, des Bounia de la province du Nord Kivu, défilent devant les embarcations des pêcheurs pour rechercher des poissons frais. Cependant, ils rentrent souvent les mêmes bredouilles. Ces commerçants déplorent également la hausse sensible des prix de ces poissons. Un kilogramme de tilapia et des petits capitaines est passé de 800 à 1200 francs congolais et les gros capitaines qui se vendaient à 1000 francs coûtent actuellement 1600 voire 1800 francs. Témoignage.
Les poissons sont rares, c'est pourquoi le prix a fortement augmenté. Avant, on achetait les poissons à moins de 1000 francs, mais actuellement, c'est au-delà de 1000 francs congolais, soit 1500 à 1600 francs congolais. Il n'y a aucun intérêt dans le commerce des poissons.
À Bounia, le prix des poissons est également revu à la hausse. Les petits capitaines coûtent 2400 francs congolais au lieu de 1800 francs congolais et les gros capitaines qui se vendaient à 2600 francs se vendent désormais à 3200 francs. Selon la plupart des pêcheurs, cette rareté est due à la saturation du lac et l'usage des filets à maillage prohibé, surtout dans les zones de reproduction des poissons, avec la complicité des militaires des forces navales des FARDC. Les pêcheurs dénoncent la passivité des autorités compétentes pour réglementer la pêche dans cette partie du pays.
La façon dont nous exploitons le lac, nos enfants ne mangeront plus de poissons. Il n'y a plus de poissons à cause de la mauvaise exploitation. Que le gouvernement intervienne d'urgence. S'il faut suspendre pendant 3 mois les activités de pêche, c'est bien.
Contacter le commissaire des districts de l'Ituri en charge de l'économie et des finances a déclaré qu'un ultimatum de 2 mois a été accordé aux pêcheurs pour vider les zones de frayeur et arrêter l'utilisation des filets illicites. Selon Avoé Caristique, au terme de cet ultimatum qui expire à la fin de ce mois de septembre, il va passer à la vitesse supérieure pour contraindre tous les pêcheurs au respect des normes légales en matière de la pêche. Bounia, Isaac Remoyope pour Écho d'économie.
L'entretien de ce soir.
L'entretien de ce soir, c'est avec Claude de France, administrateur directeur général de la Brassimba au Katanga. La brasserie Simba de Kolwezi a repris ses activités avant-hier. Cette usine, située à près de 300 km de Lubumbashi, avait arrêté sa production après le pillage de 1991. La Brassimba a acquis une nouvelle unité de production. Son administrateur directeur général s'entretient avec Colin Djuma Moussompo.
Monsieur Claude de France, la Brassimba a remis en service l'usine de Kolwezi. Comment est-ce que cela s'est passé?
Nous avons été obligés de fermer l'usine de Kolwezi en 1991 suite au pillage. Et malheureusement, avec la récession économique que la région a connue, baisse de fabrication de la gécamine, etc., je ne vais pas revenir sur malheureusement des choses que les gens connaissent bien, nous n'avions jamais été capables de réouvrir parce que ce n'était pas rentable. Il y a 2 ou 3 ans, avec la remise en route un petit peu des activités minières, nous avons vu que ce serait quand même intéressant pour nous d'avoir un autre centre de production que Lubumbashi, et donc nous avons pensé de réouvrir Kolwezi.
Pourquoi tout d'abord Kolwezi? Est-ce que c'est un site stratégique?
Nous considérons effectivement que le développement du Katanga devrait se faire toujours évidemment via le business des mines et de la métallurgie, et que c'est indiscutablement la partie ouest qui est la plus riche là-dedans et donc qui a le plus de promesses. Donc nous avons choisi Kolwezi pour ça. Likasi, nous n'avons plus la brasserie. Likasi est très près de Lubumbashi, et comme Lubumbashi, nous venons de faire un investissement extrêmement important pour renouveler toute la brasserie de Lubumbashi et augmenter nos capacités de production, nous pouvons très facilement approvisionner Likasi à partir de Lubumbashi. La route a été refaite. Donc là, on voit tout de suite quand même que les chantiers se mettent en place. Et nous avons préféré remettre un gros dépôt Brassimba à Likasi pour que les gens de Likasi aient la bière également au meilleur prix en quantité voulue, et investir plutôt dans la remise en route de la brasserie de Kolwezi.
Et quelle est la capacité de la production au niveau de Kolwezi?
Nous espérons que quand tout redémarrera convenablement et que les routes de desserte agricole autour de Kolwezi seront refaites et que la SNCC recommencera à envoyer des trains vers Dilolo et vers Bukama, nous espérons pouvoir faire 15 000 hectolitres de bière à partir de Kolwezi.
La remise en service de cette brasserie vous a coûté 10 millions de dollars américains comme investissement. D'où est sorti cet argent, si ce n'est pas un secret?
C'est toujours la même chose. Tout ce que nous avons fait comme investissement, aussi bien à Lubumbashi qu'à Kolwezi, c'est en partie des financements sur fonds propres et surtout grâce à un prêt propriétaire majeur. Donc la brasserie Simba a comme actionnaire majoritaire à 95% le groupe français BGI Castel, et c'est lui qui nous a donné un prêt pour que nous puissions recommencer à moderniser Kolwezi. Ça ne sera pas pour tout de suite la prochaine étape, mais c'est ce que j'ai dit à Kolwezi dans mon petit discours, c'est que nous espérons pouvoir un jour réouvrir la brasserie de Kamina. Mais la brasserie de Kamina ne sert évidemment que très peu pour les gens autour de cette région. Elle servait surtout à approvisionner Kalemi et Nyunzu et toutes les villes vers le lac Tanganyika et d'approvisionner le Maniema vers Kindu. Donc elle ne peut être mise en route que primo si nous sommes certains qu'il y a de l'électricité. Et pour ça, il faut évidemment que le barrage qui se trouve là-bas soit remis en état. Et deuxièmement, que nous soyons certains que nous pouvons envoyer nos matières premières vers la brasserie de Kamina et de là redistribuer la bière vers les grands centres où elle est consommée. Et pour ça, nous avons à tout prix besoin d'un chemin de fer fiable, et quand je dis fiable, c'est un chemin de fer qui, une fois par semaine, fasse des liaisons vers ces différentes villes.
Et quelles sont les difficultés que vous éprouvez en général?
Je vous le dis, la difficulté principale, c'est la difficulté de pouvoir amener notre bière partout où elle pourrait être bue.
Monsieur France, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Merci Colin Djouma, merci Claude France. Je rappelle que vous êtes administrateur directeur général de la Brassimba au Katanga, dont l'extension de Kolwezi a repris ses activités après 18 ans d'arrêt suite au pillage de 91. C'est avec vous que nous terminons Écho d'économie, Mimi Kindou la mise en onde, à la présentation Jocelyne Moussa Opondé, Daniel Tambinzoni, Agathe Mpona, Kaziragi Kazadi et Georges Kamoudjova ont participé à son élaboration sous la supervision de Ben Kabamba. Merci de nous avoir suivi et bonne soirée.